Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Barthez, bienvenue sur le 107FM, bienvenue, nous sommes aujourd'hui en direct de L'Encrier, que nous remercions chaleureusement, on remercie toute l'équipe et Marie-Hélène évidemment pour votre accueil, pour leur accueil à la technique, c'est Arthur aujourd'hui et c'est aujourd'hui et pour longtemps j'espère, et à la coordination c'est Véro, c'est le début de la semaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et à cette occasion on fait un plateau exceptionnel. Cette semaine est portée par l'éducation nationale, alors sur le papier ça sonne bien. Est-ce que c'est pour se donner bonne conscience ou pour réellement faire avancer les choses? C'est toute la question qui est posée, la problématique aujourd'hui. Alors évidemment, on va accepter les possibles critiques. Ce que nous avons voulu faire, c'est mettre en avant les personnes, les alliés qui se battent à différentes échelles ici en Lozère pour faire avancer les choses, pour les migrants, pour lutter contre les discriminations, quelles qu'elles soient. Et effectivement, pardon de le dire, mais ça a le mérite d'être honnête, nous sommes toutes et tous blancs et français autour de cette table. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est effectivement une erreur de ma part. C'est aussi le fait que des personnes qui sont sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, ont parfois peur de parler. C'est pas toujours évident, on le conçoit. Sachez juste, si vous écoutez la radio, que Radio Barthez leur est ouverte toute l'année et que si elles le désirent, si elles veulent s'exprimer, elles sont les bienvenues. De même, si le public est peu nombreux, mais si vous avez envie de nous rejoindre, envie de critiquer et envie de dire des choses, envie de poser des questions, il y a un micro de disponible, n'hésitez pas. J'ai peur. Détrompez-vous. Je n'ai pas peur de l'étranger, pas peur de l'autre, et encore moins du grand remplacement qui n'arrivera jamais. J'ai peur du pouvoir en place, j'ai peur de la montée dangereuse de l'extrême droite, j'ai peur et j'ai la haine contre les propos indécents, racistes et fascistes qui se multiplient de manière générale, de manière honteuse dans notre pays, dit des droits de l'homme, les droits de l'homme avec un grand H. Toutes les dictatures sont d'une manière ou d'une autre racistes et ou fascistes. Elles s'instaurent insidieusement et commencent souvent en mettant sur le banc de la société une catégorie de la population. Au début des années 30, les responsables de tous les maux étaient les juifs. L'histoire nous a montré ce que ça a donné. Terrible. Le parallèle va peut-être vous sembler violent, tant pis. Aujourd'hui, les responsables de tous les maux de notre société seraient les migrants. Certains politiques et certains médias ne cherchent même plus à déguiser leurs propos et leurs idées nauséabondes. Et que dire du pouvoir en place qui fait de l'immigration non pas une richesse, mais une tare ? Il multiplie les OQTF et les violences envers les migrants, boulevard Barbès ou à Calais. Et même en Lozère, ici, on l'a vu ces dernières années. Pour commencer cette émission, je vous propose, avant de vous présenter nos invités, Matin Brun de Franck Pavlov. L'instauration d'une dictature. Tout doucement, tout calmement. Le parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui peut se faire rapidement. Un pouvoir discriminant, un pouvoir qui stigmatise, c'est tout, sauf bon pour la démocratie.
Les jambes allongées au soleil, on ne parlait pas vraiment avec Charlie.
On échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête.
Sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté.
Des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café.
Lorsqu'il m'a dit qu'il avait dû faire piquer son chien, ça m'a surpris, mais sans plus.
C'est toujours triste, un kleps qui vieillit mal.
Mais passé 15 ans, il faut se faire à l'idée qu'un jour ou l'autre il va mourir.
Tu comprends ? Je pouvais pas le faire passer pour un brun.
Mais un labrador, c'est pas trop sa couleur. Et il avait quoi comme maladie ?
C'est pas la question. C'était pas un chien brun, c'est tout.
Mince alors. Comme pour les chats maintenant ?
Oui, pareil.
Pour les chats, j'étais au courant. Le mois dernier, j'avais dû me débarrasser du mien, un de gouttière qui avait eu la mauvaise idée de naître blanc, taché de noir.
C'est vrai que la surpopulation des chats devenait insupportable, et que d'après ce que les scientifiques de l'État national disaient...
Il valait mieux garder les bruns que des bruns.
Tous les tests de sélection prouvaient qu'ils s'adaptaient mieux à notre vie citadine, qu'ils avaient des portées peu nombreuses et qu'ils mangeaient beaucoup moins.
Ma foi, un chat, c'est un chat.
Et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns.
La plupart des chefs religieux approuvaient cette mesure. et les milices de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arsenic.
Mélangées à la pâtée, elles expédiaient les matous en moins de deux.
Mon cœur s'était serré, puis on oubliait vite.
Les chiens, ça m'avait surpris un peu plus. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que c'est plus gros ou que c'est le compagnon de l'homme, comme on dit.
En tout cas, Charlie venait d'en parler aussi naturellement que je l'avais fait pour mon chat. Et il avait sans doute raison.
Trop de sensiblerie ne mène pas à grand-chose.
Et pour les chiens, c'est sans doute vrai que les brins sont plus résistants.
On n'avait plus grand-chose à se dire.
On s'était quitté, mais avec une drôle d'impression. Comme si on ne s'était pas tout dit, pas trop à l'aise. Quelque temps après, c'est moi qui avais appris à Charlie que le quotidien de la ville ne paraîtrait plus. Il en était resté sur le cul. Le journal qu'il ouvrait tous les matins en prenant son café crème.
Ils ont coulé ? Des grèves ? Une faillite ?
Non, c'est à la suite de l'affaire des chiens.
Des brins ?
Oui, toujours. Pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale. Ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. Les lecteurs ne savaient plus ce qu'il fallait penser. Certains même commençaient à cacher leurs clébards.
À trop jouer avec le feu.
Ah, comme tu dis, le journal a fini par se faire interdire.
Mince alors, et pour le tiercé ?
Bah mon vieux, faudra chercher tes tuyaux dans les nouvelles brunes. Et il n'y a plus que celui-là. Il paraît que côté course sport, bon, il tient la route.
Puisque les autres avaient passé les bornes, il fallait bien qu'il reste un canard dans la ville. On ne pouvait pas se passer d'informations tout de même.
J'avais repris ce jour-là un café avec Charlie. Mais ça me tracassait de devenir un lecteur des nouvelles brunes.
Pourtant, autour de nous, les clients du bistrot continuaient leur vie comme avant. On avait sûrement tort de s'inquiéter.
Après, ça avait été autour des livres de la bibliothèque. Une histoire pas très claire encore. Les maisons d'édition, qui faisaient partie du même groupe financier que le quotidien de la ville, étaient poursuivies en justice et leurs livres interdits de séjour sur les rayons des bibliothèques.
Il est vrai que si on lisait bien ce que ces maisons d'édition continuaient de publier, on relevait le mot « chien » ou « chat » au moins une fois par volume.
Et sûrement pas toujours assorti du mot « brin ».
Elle devait bien le savoir tout de même. « Faut pas pousser »,
disait Charlie.
« Tu comprends ? La nation n'a rien à y gagner à accepter qu'on détourne la loi et à jouer au chat et à la souris. »
Brune. Il avait rajouté en regardant autour de lui...
Souris brune.
Au cas où on aurait surpris notre conversation.
Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude de rajouter...
Brun
ou
brune.
À la fin des phrases ou après les mots.
Au début, demander un pastis brun, ça nous avait fait drôle.
Puis, après tout, le langage s'est fait pour évoluer.
Ce n'était pas plus étrange de donner dans le brun que de rajouter putain con à tout bout de champ comme on le fait par chez nous.
Au moins, on était bien vu et on était tranquille. On avait même fini par toucher le tiercé.
Oh, pas un gros, hein. Mais tout de même, notre premier tiercé brun.
Ça nous avait aidé à accepter les tracas des nouvelles réglementations.
Un jour, avec Charlie, oh, je m'en souviens bien, je lui avais dit de passer à la maison pour regarder la finale de la Coupe des Coupes.
On a attrapé un sacré fou rire.
Voilà pas qu'il débarque avec un nouveau chien. Oh, magnifique, brun, de la queue au museau, avec des yeux marrons.
Tu vois, finalement, il est plus affectueux que l'autre et il m'obéit au doigt et à l'œil. Fallait pas que j'en fasse un drame du labrador noir.
À peine il avait dit cette phrase que son chien s'était précipité sous le canapé en jappant comme un dingue.
Et gueule, que je te gueule, et que même brin, je n'obéis ni à mon maître, ni à personne.
Et Charlie avait soudain compris.
Non. Toi aussi ?
Bah oui, tu vas voir. Et là, mon nouveau chat avait jailli comme une flèche pour grimper au rideau et se réfugier sur l'armoire.
Un matou au regard et au poil brun.
Qu'est-ce qu'on avait ri ?
Tu parles d'une coïncidence.
Tu comprends, j'ai toujours eu des chats, alors... Oh, il est pas beau, celui-ci.
Magnifique. Puis on avait allumé la télé pendant que nos animaux bruns se guettaient du coin de l'œil.
Je ne sais plus qui avait gagné, mais je sais qu'on avait passé un sacré bon moment et qu'on se sentait en sécurité.
Comme si de faire tout simplement ce qui allait dans le bon sens dans la cité nous rassurait et nous simplifiait la vie.
La sécurité brune, ça pouvait avoir du bon.
Bien sûr, je pensais au petit garçon que j'avais croisé sur le trottoir d'en face et qui pleurait son caniche blanc, mort à ses pieds.
Mais après tout, s'il écoutait bien ce qu'on lui disait, les chiens n'étaient pas interdits.
Il n'avait qu'à en chercher un brin.
Même des petits, on en trouvait.
Et comme nous, il se sentirait en règle et oublierait vite l'ancien.
Et puis hier, incroyable... Moi qui me croyais en paix, j'ai failli me faire piéger par les miliciens de la ville, ceux habillés de brun qui ne font pas de cadeaux. Ils ne m'ont pas reconnu parce qu'ils sont nouveaux dans le quartier et qu'ils ne connaissent pas encore tout le monde. J'allais chez Charlie.
Le dimanche, c'est chez moi qu'on joue à la belote.
J'avais un pack de bière à la main, c'était tout.
On devait taper le carton, 2-3 heures, tout en grignotant.
Et là, surprise totale, la porte de son appart avait volé en éclats et deux miliciens plantés sur le palier faisaient circuler les curieux. J'ai fait semblant d'aller dans les étages du dessus et je suis redescendue par l'ascenseur. En bas, les gens parlaient à mi-voix.
Et pourtant, son chien était un vrai brun. On l'a bien vu, nous.
Oui, oui, oui. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'avant, il en avait un noir. Pas un brun, un noir.
Avant ?
Mais oui, avant. Le délit maintenant, c'est aussi d'en avoir eu un qui n'aurait pas été brun.
Et ça, c'est pas difficile à savoir. Il suffit de demander aux voisins.
J'ai pressé le pas.
Une coulée de sueur trempait ma chemise. Si en avoir eu un avant était un délit, j'étais bon pour la milice.
Tout le monde dans mon immeuble savait qu'avant, j'avais eu un chat noir et blanc.
Avant ? Ça alors, je n'y aurais jamais pensé.
Ce matin, Radio Brune a confirmé la nouvelle. Charlie fait sûrement partie des 500 personnes qui ont été arrêtées.
Ce n'est pas parce qu'on aurait acheté récemment un animal brun qu'on aurait changé de mentalité, ils ont dit.
Avoir eu un chien ou un chat non conforme à quelque époque que ce soit est un délit.
Le speaker a même ajouté
« Injure à l'État national ».
Et j'ai bien noté la suite.
Même si on n'a pas eu personnellement un chien ou un chat non conforme, mais que quelqu'un de sa famille...
Un père.
Un frère.
Une cousine, par exemple.
En a possédé un...
Ne serait-ce qu'une fois dans sa vie.
On risque soi-même de graves ennuis.
Je ne sais pas où ils ont emmené Charlie.
Là, ils exagèrent. C'est de la folie.
Et moi qui me croyais tranquille pour un bon bout de temps avec mon chat brun.
Bien sûr, s'ils cherchent avant, ils n'ont pas fini d'en arrêter des proprios de chats et de chiens. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'aurais dû me méfier des brins dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux.
Après tout, il était à moi, mon chat, comme son chien pour Charlie. On aurait dû dire non.
Résister davantage. Mais comment ?
Ça va si vite, il y a le boulot, les soucis de tous les jours.
Les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ?
On frappe à la porte. Si tôt le matin, ça n'arrive jamais.
Ouvrez !
J'ai peur.
Le jour n'est pas levé.
Il fait encore brun au dehors.
Ouvrez !
Matin brun de Franck Pavlov, lu par Arthur Provost et Émilie Gomard avec la musique de Lila Poussé. Plateau de Radio Martas en direct de l'Encrier consacré à la lutte contre toutes les formes de racisme. Avec nous en plateau, Christelle pour l'association La Redingote. Bonjour.
Bonjour.
Georges pour RESF, Réseau Éducation Sans Frontières et Attaque. Bonjour.
Bonjour.
Marianne pour Réseau Éducation Sans Frontières, bonjour.
Bonjour.
Et Patricia pour Réseau Éducation Sans Frontières et le Planning Familial, bonjour.
Bonjour.
Alors je trouvais ça intéressant, alors c'est marrant parce qu'au moment où il y a du gros stress, il y a un gros son qui s'est levé, ça a saturé tous les côtés. Et au final c'est un mal pour un bien parce qu'au final c'est très stressant et faut bien se rendre compte d'une chose, je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Par ce stress, en fait, que les migrants peuvent avoir, souvent, où ils s'attendent à recevoir ce frappage à la porte super violent à 6h du matin pour les renvoyer chez eux. Je sais pas qui veut prendre la parole en premier. C'est compliqué, tout le monde se regarde. Patricia, est-ce que ce stress ou pas ? Sinon, je passe à l'autre question.
Non, non, je vais répondre. C'est vrai qu'il y a du stress pour les personnes qui ont une obligation de quitter le territoire français. Ce n'est pas forcément le stress d'entendre frapper à sa porte à 6h du matin. Parce que dans la réalité, les personnes qui sont sous OQTF sont de plus en plus assignées à résidence. Ça veut dire qu'elles vont tous les jours... ouvrable, pointé, signé, soit à la gendarmerie, soit au commissariat. Et que c'est à cette occasion-là qu'elles sont arrêtées et qu'elles sont expulsées. Mais donc c'est l'angoisse quand même tous les jours, au moment où ils doivent aller signer.
Alors je trouve intéressant de commencer par ce plateau, par cette métaphore de Pavlov, parce que je trouve que le sort qu'on inflige justement aux migrants est dangereux pour notre démocratie. Est-ce que je me suis trompé ?
Non, je crois qu'effectivement, c'est très, très dangereux. Et pour revenir sur la question précédente, là, il n'y a pas que le fait de taper à la porte à 6h du matin. Ça se passe beaucoup plus tranquillement. Et le stress, il est énorme, mais pas uniquement pour les gens qui ont une assignation à résidence, y compris pour des gens qui ont un titre de séjour provisoire de 3 mois et qui voient arriver le terme du 3 mois et qui ne savent pas s'ils vont avoir le prolongement ou pas. Et c'est très stressant, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment ils vont être mangés 15 jours plus tard, quoi. Et il faut essayer de comprendre ce que ça représente comme angoisse de ne pas savoir ce qu'on va faire un mois après, quand on s'est échappé dans des conditions épouvantables. Donc c'est pas toujours les toc-toc à 6h du matin, mais c'est quand même très, très angoissant.
Avec plaisir, Patricia.
Oui, je complète pour dire que ces situations-là peuvent durer très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont rester sans titre de séjour, parfois 5 ans, 6 ans, ça en Lozère. Donc vivre avec cette pression pendant tout ce temps-là, c'est effectivement extrêmement difficile.
Nous avons reçu Flore Théron, qui est la mère de Florac. Soit dit en passant, une petite parenthèse, beaucoup d'élus locaux se sont mobilisés contre les OQTF il y a quelques mois, on y reviendra. En tout cas, Flore nous disait qu'elle n'avait pas eu de retour de personnes qui souffrent de racisme ici à Florac. Elle nous a dit que si c'était le cas, que sa porte était ouverte. Quel est votre sentiment sur le racisme en milieu rural ?
Effectivement, je pense que sur le secteur, les racistes ne se montrent pas trop. il faut se rappeler, par exemple, il y a deux ans et demi, trois ans peut-être, on a fait une manif pour des gens qui allaient être expulsés. Et on avait plus de 400 personnes dans les rues de Florac, ce qui est énorme. Florac, c'est moins de 2000 habitants. 400 personnes dans les rues pour dire non, on ne veut pas qu'ils soient expulsés, c'est vraiment énorme. Et donc je crois qu'effectivement, on est un peu protégé. Je ne dirais pas ça sur l'ensemble de la Lozère parce que je ne connais pas. Mais sur Florac, j'ai l'impression que les racistes ne se présentent pas trop, quoi. On ne les voit pas trop.
Oui, je voulais ajouter que c'est surtout du racisme d'État plutôt que du racisme de tous les jours. Là, en Lozère, on ne trouve pas qu'il y ait plus de gens racistes. En tout cas, les personnes qu'on aide ne nous le disent pas. Au contraire, ils disent toujours qu'ils sont soutenus par les voisins, mais c'est le stress continu de l'assignation à résidence, d'être sans papier, on leur demande d'apprendre le français, mais ils sont tellement stressés que, on peut pas être à l'aise, avoir le cerveau libre pour apprendre des choses quand on est obnubilé par se demander ce qu'on va faire le lendemain. Voilà.
Gros paradoxe entre l'institution et en fait nous, population, qui sommes là et qui sommes terre d'accueil ici en Lozère. Alors justement, il y a un énorme paradoxe institutionnel en Lozère, je m'explique. Alors que le département, et je les ai quand même pas mal, soit au téléphone, soit je les rencontre, qui font tout pour que de nouveaux arrivants s'installent ici, peu importe leur provenance, alors qu'on sait que les migrants, mais pas que, hein, peuvent faire vivre les écoles, les commerces, participer à la vie économique de la région. De l'autre côté, il y a la machine préfectorale. Elle s'en fout, elle a multiplié les OQTF. C'est un peu un paradoxe, en fait. Il y a un manque de com' ici en Lozère entre les institutions et... Georges ?
Je ne pense pas que ce soit un manque de com, c'est simplement que l'intérêt de... On n'a pas de problème avec le département. Le conseil départemental est plutôt favorable à ce qu'on aide. Ils nous aident à fonctionner. Ils interviennent auprès de la préfecture. C'est simplement que l'État, entre autres Darmanin, le ministre de l'Intérieur et la Première ministre, envoie au préfet des obligations de politique à tenir qui obligent le préfet à intervenir de telle façon. Alors qu'au conseil départemental, ils tiennent compte de ce que veulent les habitants du département. Donc il y a effectivement une forte différence entre l'intervention de la préfecture qui représente le gouvernement et du conseil départemental qui en fait représente les habitants du département.
Alors justement, faisons un point un peu, Patricia, on en parlait hors antenne, faisons un point sur les obligations de quitter le territoire français. C'est assez compliqué. Hein. Évidemment, la préfecture ne va pas communiquer là-dessus. Voilà, mais où est-ce qu'on en est ici en Lozère? Parce qu'on a vu une augmentation tout d'un coup là, ces trois dernières années qui a été complètement folle. Il y a eu une mobilisation citoyenne qui était géniale. Est-ce qu'on on sait où on en est?
Oui, c'est difficile effectivement à quantifier. C'est vrai qu'il y a une augmentation, moi je dirais, depuis au moins 5 ans, en gros. Mais en fait, la Lozère est représentative de la France. Ce n'est pas un cas particulier. Hein. C'est vrai que les circulaires, de toute façon, demandent à ce que ces OQTF soient prises dès qu'une personne est sans papier. Hein. Et donc voilà, l'augmentation, elle est certaine. Il me semble que l'année dernière, on en était... je dirais à 60 personnes qui pouvaient être expulsées. Ça ne veut pas dire 60 OQTF, parce qu'il n'y a que les adultes qui ont des OQTF, pas les enfants. Voilà. Donc oui, ça augmente. Quantifier, c'est difficile. Et la Lozère n'est pas un cas particulier.
Alors, il y a eu un changement de préfet. D'une préfète, on est passé à un préfet. Est-ce que ça s'est un peu calmé Tu peux le dire dans le micro, hein, genre, j'ai pas de souci. Est-ce que ça s'est calmé un peu? Est-ce qu'on sent un peu une accalmie ou pas du tout? Ou c'est... Marianne?
Je vais répondre. Oui, on n'a pas 10 ans. C'est sûr qu'il y a toujours une question de personne. Hein. Là, avec le préfet actuel, il nous reçoit. Il accepte de nous recevoir, de nous écouter. Mais après, bien sûr, ils ont des obligations de résultats. Et je pense qu'ils ont l'air assez surveillés, bien sûr. Hein. Et donc, ben, ils font en fonction des lois. Hein, et voilà. Donc, mais c'est vrai que là, on est reçu, on est écouté, on est entendu. Voilà. C'était pas le cas avant. Ah bon.
Patricia, ouais.
Oui, moi, je veux juste rajouter qu'en fait, au niveau européen, la France détient le triste record du nombre d'obligations de quitter le territoire. Par rapport à tous les autres pays européens, on n'est pas le pays qui accueille le plus de réfugiés, on n'est pas le pays qui donne le plus de titres de séjour. Par contre, effectivement, depuis 2018, c'est la France qui distribue le plus d'OQTF. Alors j'ai les chiffres pour 2021, 125 500 OQTF, ce qui ne veut pas dire 125 500 expulsions. Voilà, donc la Lozère participe à son échelle, à ce record.
Il y a aussi, je pense que l'OQTF, c'est déjà dramatique, mais de plus en plus, ils assortissent ça d'une interdiction de retour sur le territoire français, IRTF. Et ça, c'est horrible, parce que ça veut dire que même s'ils rentrent chez eux et qu'ils obtiennent, ils peuvent même pas avoir un vrai visa pour pouvoir revenir en France. Et ça, on connaissait pas. Ça, il y a 5 ans, on ne connaissait pas. Ça, c'est nouveau, ça vient de sortir, quoi. Mais ça va être pire encore. Hein. Il y a la Darmanin qui va sortir. Bon, là, on est bloqué avec les mobilisations sur les retraites, mais la loi Darmanin, c'est aussi quelque chose contre lequel il va falloir se mobiliser vraiment de façon forte, parce que c'est catastrophique, quoi. Déjà, notre situation, on voit bien que pour les réfugiés, c'est difficile, pour les exilés, mais s'ils arrivent à faire passer la loi Darmanin, ça va être encore pire, et largement pire. Donc c'est vraiment dramatique. Et c'est pas spécial à la Lozère, ça. Hein. C'est sur l'ensemble du territoire français. Il y a le 25, le 27, il y a déjà des manifs qui sont prévus contre la loi Darmanin, mais il va falloir s'y intéresser de près. Ouais.
25 mars et 27 mars. C'est ça. On a vu, attention, ma prochaine question, c'est très bien, je ne vais pas critiquer ce fait. On a vu une belle envolée de solidarité pour les Ukrainiens et Ukrainiennes qui ont fui leur pays en guerre. Il n'y a pas eu, il n'y a pas le même traitement pour les peuples syriens ou encore afghans qui sont pourtant dans des situations absolument terribles. Est-ce qu'on peut trouver une explication à se dire, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures? Et puisque vraiment là on parle de racisme, est-ce qu'il y a un racisme étatique?
Bien sûr. Bien sûr. Oui,
Bah, on est obligé de constater que oui, hein, même si on ne peut pas affirmer, prouver ce qu'on, voilà, ce qu'on dit, mais c'est vrai que ce n'est pas les mêmes, c'est pas le même accueil que pour les Africains, par exemple. Donc, oui, c'est des questions d'accord politique, hein, tout simplement. Hein.
Oui, ce que je voulais rajouter, enfin, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que c'est depuis 2018. On s'aperçoit qu'il y a une augmentation des OQTF et Emmanuel Macron a été élu en 2017. Absolument. Et j'ai vraiment fortement l'impression que depuis que cet homme est au gouvernement, effectivement, il y a du racisme d'État. Effectivement, il divise le peuple depuis le début, que ce soit, c'est pour tout, pour l'économie, pour le Covid, pour tout en fait. Et que de toute façon, évidemment qu'il y a un lien entre la personne qui est au pouvoir et puis ce racisme qui s'installe au fur et à mesure. Quoi.
Ouais. C'est là où c'est dingue, hein, c'est que finalement on pourrait juste être humain et traiter les gens de la même façon, et non, c'est pas le cas. Puisqu'on parle de paradoxe, cette semaine contre le racisme et l'antisémitisme est organisée par l'Éducation nationale. Je l'évoquais en intro. Alors, à votre avis, est-ce que c'est pour se donner bonne conscience ou est-ce que c'est parce qu'il y a une vraie envie de faire évoluer les choses ?
Oui, évident que c'est pour se donner bonne conscience. Quand on voit comment c'est organisé et comment fonctionne l'État actuellement, ils font tout pour que le Front National soit là aux prochaines élections. C'est évident qu'ils n'en ont rien à faire de l'antiracisme. Mais on est dans une période où les mots ne veulent plus rien dire. On voit Dussopt, le ministre du Travail, qui dit qu'il fait une réforme de gauche. Est-ce que ça veut dire quoi dans sa tête, quoi ? Ou Borne, qui fait une réforme qui est au bénéfice des femmes et des plus précaires. Mais on ne sait plus ce que disent les mots, quoi. Et je crois qu'ils jouent là-dessus. On a sur le plan sémantique, ils utilisent des mots à l'envers de ce qu'ils veulent dire. Alors c'est difficile, mais toute la politique, c'est ce que disait tout à l'heure Christelle, toute la politique est faite par des gens qui sont dans le cadre du néolibéralisme, qui se battent pour que les plus riches deviennent plus riches et que les plus pauvres deviennent plus pauvres. Tout ce qu'on demande, que ce soit pour les retraites ou ensuite pour les immigrés, on a des gens qui veulent nous faire croire que les riches, on ne peut rien faire. À propos des retraites, là, il fallait absolument le faire. C'était indispensable, sinon on était dans la catastrophe. Alors que le Conseil d'orientation des retraites a dit que ce n'était pas vrai. Il y a simplement 10 milliards à trouver. Quand on sait qu'on a balancé 185 milliards sur les chefs d'entreprise, il ne faut pas rigoler en disant qu'il n'y a rien à faire. Simplement, on fait bénéficier. Nos impôts, ils servent actuellement à donner encore aux plus riches. C'est-à-dire que c'est difficile.
Et du coup, on en reparlera
plus
tard.
Mais c'est grave. Parce qu'actuellement, le gouvernement fait le lit du Front National. Ils font tout ce qu'il faut pour que le Front National arrive à prendre le pouvoir. Je ne sais pas s'ils se rendent compte ou s'ils ne s'en rendent pas ou s'ils sont idiots, mais actuellement, ils font tout pour ça.
Alors, ce qu'il y a de vrai, et c'est ça qui est fou, juste avant de te donner la parole, Marianne, c'est que Macron, quand il a été élu en 2017, avait dit « Après moi, il n'y aura plus de Front National ». Résultat des courses, 89 députés à l'Assemblée nationale et un discours qui a été vraiment amplifié. Marianne.
Oui, je voulais juste avorter une petite modification. L'Éducation nationale a toujours organisé des semaines contre le racisme. Mais justement, à l'heure actuelle, ça a un côté indécent. Je trouve, voilà, c'est simplement ça. Alors que, au départ, enfin, moi, je l'ai fait pendant toute ma carrière, parce que j'étais enseignante, j'ai toujours participé à ces semaines-là. Je le faisais de bon cœur, comme aux droits de l'enfant et tout ça. Sauf que les dernières années, eh bien, je ne participais plus parce que entre ce qui se dit et ce qu'on voilà, et puis ce qui se passe. Il y avait un tel décalage que c'était vraiment décourageant.
Et on continuera à parler de la jeunesse juste après. Patricia, tu voulais réagir ?
Oui, je réagis un petit peu en retard, mais je réagis quand même. Il faut quand même se rappeler ce qu'a déclaré M. Darmanin à propos des exilés. Je préfère ce terme à celui de migrants. Il faut être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Alors, quand on en est à ce niveau-là, alors qu'est-ce qu'il entend par méchant avec les méchants ? Donc voilà, les méchants, c'est ceux qui travaillent pas, par exemple, qui ont pas de travail. Hein. C'est ceux qui sont délinquants, qu'il appelle délinquants, puisqu'effectivement, il y a une circulaire qui précise bien au préfet que tous ceux qui ont eu des problèmes avec la justice, quels qu'ils soient, doivent être expulsés. Mais après, gentil avec les gentils, alors qui c'est les gentils ? C'est pareil, c'est les réfugiés, alors ça va être plus particulièrement les réfugiés ukrainiens, effectivement, avec ceux qui ont du travail. Et voilà, et avec là, ce qui est prévu, par exemple, dans la loi, la nouvelle loi, il va y avoir des changements, un changement, par exemple, on va prendre en compte ce qu'on appelle les métiers en tension. Les fameux. Quels métiers sont en tension et où ? Enfin, ça pose beaucoup de questions, on pourra y revenir, hein. Et puis après, bah, les gentils, c'est les réfugiés. C'est surtout pas ceux qu'on appelle migrants économiques. C'est pour ça que le terme de migrant, j'ai pas forcément envie de l'employer. Hein. Et que je préfère le terme exilé. Parce qu'on a plein d'Européens qui sont des migrants économiques quand ils partent ailleurs pour avoir une meilleure situation. Et eux, on les appelle des expatriés. Mmh. Voilà.
La sémantique.
Genre. Ouais, mais moi, je suis là complètement d'accord avec Darmanin. Il faut absolument être méchant avec les méchants. Mais savoir que les méchants, c'est eux. Les méchants, c'est ceux qui ont du pognon. C'est ceux qui nous. C'est tous les actionnaires qui ramassent du pognon sur le travail de ceux qui sont au boulot. C'est eux les méchants. Il faut être méchant avec eux. Je suis d'accord.
On est sur Radio Martha, c'est tout va bien. On a le droit de tout dire. Alors, en 2002, la jeunesse s'est levée contre l'extrême droite au deuxième tour de l'élection présidentielle. J'en faisais partie, c'était complètement dingue. Aujourd'hui, plus rien. Enfin, si, à l'aube de mes 40 balais, j'étais encore en manif au deuxième tour. Bref. Patricia, tu fais partie du CA du planning familial. Est-ce qu'il y a des discussions comme ça avec les jeunes ? Est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose de notre jeunesse ? Ou alors si nous, ce sont des vieux cons et on n'arrive plus à se bouger et la jeunesse n'a plus envie de se bouger ?
Je comprends pas exactement ta question.
En fait, la jeunesse ne se lève plus quand l'extrême droite est au deuxième tour.
Oui, mais enfin, ça, c'est pas de l'ordre du planning familial.
En tout cas, RESF ou quoi ? En tout cas, si vous bossez contre les discriminations au planning.
Au planning, il y a des interventions, effectivement, sur la vie sociale, sur la vie affective et sexuelle. Il y a des interventions contre les LGBT-phobies, c'est sûr.
Les discriminations en général, c'est ça que j'entendais. En fait.
Après, il n'y a pas d'intervention spécifique sur les discriminations en général.
D'accord.
C'est décliné selon différentes interventions.
Du coup, je vais reformuler ma question. Est-ce qu'il est possible de faire bouger la jeunesse aujourd'hui pour qu'elle se mobilise contre les discriminations d'ordre général ? Parce qu'aujourd'hui, on s'en fout. En 2002, on était tous les jeunes dans la rue. Aujourd'hui, les jeunes, on ne les voit plus. Mais avec plaisir, Marie-Hélène, le micro est là. Hein.
Je disais, fais pas ton vieux con.
Putain, ça y est, j'y suis. Quoi. Non, j'espère que ma question est claire. Est-ce que c'est possible de faire bouger la jeunesse pour que l'extrême droite n'arrive pas à vous voir ?
J'aurais envie de dire que la jeunesse a tellement, tellement de points sur lesquels elle bouge et elle doit bouger, en parlant de l'environnement, en parlant de son futur. Que effectivement, peut-être en 2002, on avait presque que ça. En tout cas, ça faisait partie d'un des gros problèmes de notre société. Aujourd'hui, on a malheureusement d'autres problèmes et les jeunes, bougent sur l'environnement, sur leur avenir. Hein. On l'a vu pour les manifs dernièrement contre la réforme des retraites. Il y avait les lycéens se sont mobilisés. Et du coup, effectivement, là, peut-être ils ont moins bougé, mais c'est, je pense aussi c'est parce qu'il y a énormément de problèmes à. Enfin voilà, ils ont beaucoup plus de problèmes à gérer, quoi.
Oui, je vais quand même répondre un petit peu après réflexion.
À ma question alambiquée, autant oui. Pour moi.
L'année dernière, il y a eu la première marche des fiertés en Lozère,
oui.
Qui était organisée donc par Tapage le planning familial. À cette occasion, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes. il y avait beaucoup de collégiens, de lycéens, et qui visiblement étaient vraiment ravis d'être là, avaient besoin d'être là. Alors c'est vrai que dans les interventions qui se font en milieu scolaire, il y a une partie, je dis bien une partie, des jeunes qui sont mobilisés pour faire évoluer le regard qu'on peut porter sur les personnes LGBT, par exemple, et qui sont investis. Il y en a sans doute plus qu'avant. Ça n'empêche pas que, à l'inverse, il y a aussi plus de jeunes qui vont être assez virulents et assez violents et dire des choses lors de ces interventions qui sont effectivement haineuses, avec des, parfois jusqu'à des menaces de mort, du genre, en parlant des personnes LGBT, il faudrait tous les tuer. Ou, regarde, lui, il est pédé, et on lui dit bien bonjour, c'est déjà bien. Donc voilà, il y a deux choses qui se développent parallèlement, peut-être avec des, entre guillemets, prises de position plus fortes des deux côtés.
C'est quand même fou d'en être arrivé là, parce qu'en fait, dans une société où on a eu l'impression, effectivement, j'ai 40 ans, mais de vivre dans une société qui a évolué, qui a développé énormément de droits, quel qu'il soit, en fait, au final, on arrive toujours au fait qu'à un moment, si on ne fait pas tout le temps la pédagogie et qu'on ne redit pas ces choses-là, en fait, ça s'oublie et ça s'en va. Tu as été enseignante, Marianne, et tu dis, bah, à un moment, voilà, on s'arrête parce que bah, tout ça, c'est voilà. Et si on s'arrête, ça veut dire qu'on va droit dans le mur par rapport à tout ça ? Au propos de discriminatoire ?
Moi, je, personnellement, je pense que ça vient toujours, ça vient du haut. On a des personnalités politiques qui sont, voilà, dans des affaires de justice et tout. Enfin, tout est permis, apparemment. On a l'impression que tout est permis au niveau de nos dirigeants. Donc, ben, ça redescend, quoi. C'est-à-dire que tous les propos sont aussi permis à la base, des choses qu'on n'aurait même pas osé dire il y a 20 ans parce qu'on savait que tenir des propos à caractère raciste, c'était interdit. Ben, maintenant, on n'a plus de limites, quoi. Nos dirigeants n'en emploient pas des limites. Donc, pourquoi il y en aurait en bas, tout simplement.
Et c'est surtout le fait que... Enfin, moi, ça m'attriste. Personnellement, de se dire que les médias relayent cette parole-là. Est-ce que, selon vous, parce que c'est des propos repris par des médias et des politiques, ce qu'on fait là, c'est de la bien-pensance ? Bien-pensance au mode péjoratif. Ah, les bien-pensants, c'est bon, ils nous saoulent. On a le temps. On va faire une petite pause musicale et on reviendra sur cette question. Et on va passer surtout au concret et surtout ce que vous faites sur le terrain pour venir en aide à toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. On écoute d'abord une chanson qui est d'actualité que j'adore, Pierre Perret, Lily.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily, et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily, elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Lily, Pierre Perret sur Radio Arthas, de retour au plateau en direct de L'Encrier à Florac pour ce plateau consacré à la lutte contre toutes les formes de racisme et de discrimination. On va élargir les choses. On va se laisser le temps de répondre à cette question de bien-pensance là que certains ou certaines veulent bien nous donner. En fait, c'est-à-dire qu'on est des bien-pensants, nous, parce qu'on pense à l'autre. À moins, Christelle, que tu aies une réponse toute faite, ou alors je la repose à la fin. Hein.
Une réponse toute faite. Je dirais que de toute façon, on sera toujours pour d'autres les bien-pensants et qu'en fait, quelque part, on s'en fout. On peut être des bien-pensants, bah, rien à faire, quoi. Nous, c'est toujours intéressant d'en parler. Et s'il y a des auditeurs qui s'intéressent au sujet, ben merde, quoi. On est les bien-pensants, bah, de toute façon.
Tant qu'on est des bien-pensants pour l'autre, ça, c'est sûr.
Bah, ouais.
Et bah, justement, puisque tu as la parole, on va parler de l'assaut, la redingote. Et on va rentrer dans le concret et parler avec toutes et tous de vos actions, de ce que vous faites sur le terrain. Pourquoi et comment est née la redingote ?
Alors, pourquoi et comment ? Pourquoi ? Parce que c'est justement, je crois que c'est en 2017, qu'on a commencé à créer des manifestations liées aux exilés parce que justement il y avait une montée énorme d'OQTF, enfin bref, c'était le début, quoi, c'était l'arrivée de Macron, quoi. Et du coup on s'est dit, nous en Lozère, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir, nous, sur notre petit territoire. Nous on était à Vébron, au fin fond de Vébron, nous on peut, enfin ça paraît assez difficile d'accueillir des exilés, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider ces assos ou pour aider ces gens ? Et du coup, on avait aussi parallèlement envie de développer des manifestations culturelles dans le village. Et on s'est dit, on va lier les deux. On va organiser des concerts et des rencontres. Et tous les bénéfices qu'on fera, ce sera reversé à des associations qui aident les exilés, en aide, voilà. Donc on a commencé en 2017 comme ça. Le départ, c'est à Saint-Laurent-de-Trèves, la première
au
année.
Au temple. Comme et, quoi, hein.
Ouais.
À la salle culturelle.
Oui, à la salle culturelle. Et ensuite, les années, depuis tous les ans, on organise l'été une soirée en soutien aux exilés. Mais pas que, parce que depuis 2 ans aussi, il y a la fête du slip sur Florac, du coup, c'est une grande brocante et où il y a énormément de personnes qui ont adhéré, où les bénéfices, en fait, retournent. En fait, ça, c'est plutôt pour acheter du matériel pour les exilés et pour que ce soit envoyé à Calais. Ce sont les actions qu'on a trouvées, nous, dans notre petit village ici, en Lozère, pour soutenir Bah, toutes les personnes qui viennent en aide aux exilés.
Ce combat. Alors, cette année, pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais il n'y aura pas de Eux, c'est nous à Vébron. L'asso est en refonte pour l'instant et pour des bonnes raisons. La question vaut pour tous les quatre. Est-ce que parfois, c'est difficile et c'est fatigant l'engagement citoyen, et est-ce que vous êtes découragé, Marianne?
Oh oui, ça nous arrive plein de fois. Parce que c'est sûr que comme on aide les gens, et on est au courant de leur histoire personnelle, de tout. Et ça nous pose vraiment beaucoup de nuits sans sommeil, à nous aussi, quoi, parce qu'on s'implique trop. Donc on a beau essayer de se mettre en retrait, de s'en défendre, mais on a besoin, oui, de prendre du recul un peu chacun notre tour de temps en temps, un peu de s'éloigner un peu.
Est-ce que justement, parce que là, on parle comme ça, mais il s'agit d'humains, et vous prenez des tartes dans la gueule assez continuellement. Est-ce que parfois, vous vous dites, il mériterait tellement plus, et on n'arrive pas à faire ça pour lui ou elle, en fait? Et peut-être pour les enfants aussi, en fait, parce que les enfants dans Réseau Éducation Sans Frontières, dont on dira un mot tout à l'heure, les enfants, ça doit être quelque chose de compliqué, non ?
Fatigué, oui. Découragé, sûrement pas. On voit qu'avec tout ce qui reste à faire, on ne peut pas être découragé. Et puis, de temps en temps, on a quand même des retours positifs. Quoi. Moi, on est marrain et marraine d'une petite qui est arrivée il y a 5 ans. Maintenant, elle est à l'école, elle parle couramment français. C'est un régal de la voir comme elle sait. Donc, c'est positif.
Pas facile. Je te vois pas comprendre mes questions depuis tout à l'heure. J'adore le principe.
Si, je comprends. C'est plus comment ils répondent de la façon la plus pertinente. C'est vrai qu'on entend des histoires difficiles, qu'on est amené à rencontrer des gens qui sont dans la souffrance et que ça peut être effectivement très dur et qu'on a des nuits sans sommeil. Mais voilà, après, découragé, ça peut m'arriver, mais ça passe vite. Enfin, ça passe vite. Ça ne m'empêche pas, oui, non. Généralement, on rebondit quand même, on a envie. Pour différentes raisons. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on connaît, avec qui on a des rapports humains, et que oui, on se bat pour eux, et puis c'est aussi un combat politique. Voilà. Et on sent qu'on ne peut pas lâcher, qu'il faut continuer. Et c'est vrai qu'il y a aussi des gens qu'on a accompagnés pendant des années, et qui finissent par avoir un titre de séjour, par avoir une situation où ils vont avoir un appartement, du travail, pouvoir élever leurs enfants comme ils en ont envie. Et que ça, quand on le voit, quand même, ça fait chaud au cœur et que ça fait du bien et que ça donne envie de continuer.
Alors, on va quand même dire une chose, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas RESF, Réseau Éducation Sans Frontières. Je ne sais pas si toi, Marianne, ou toi, Patricia, voulez vous y coller pour expliquer ce qu'est RESF. Parce que finalement, Réseau Éducation Sans Frontières, ce n'est pas une asso, c'est un réseau. Mais qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on y fait dans ce réseau, en fait? C'est quoi le but, Marianne?
Bah, c'est un réseau de personnes militantes, en fait, mais on n'est pas sous forme d'association, parce que chacun fait bénévolement ce qu'il veut, comme il veut, voilà. Donc il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie, on vient, on repart, on fait si on a envie, si on n'a plus envie, on s'en va, voilà, on n'a de compte à rendre à personne, c'est chacun en fonction de sa conscience, de sa disponibilité.
Ça va être quoi? Ça va être de donner cours de français, ça va être d'aider à avoir, de comprendre la machine administrative française qui est quand même assez lourde.
En fait, on accompagne les personnes, et quand je dis les accompagner, ça veut dire que on décide pas pour elles, mais on les aide à faire ce qu'elles veulent faire. Donc souvent, ça passe effectivement par une aide qui peut être juridique, à quoi elles ont droit, qu'est-ce qu'elles peuvent demander comme titre de séjour. Après, c'est pas que ça. C'est aussi, quand on a des rendez-vous en préfecture, de pouvoir donner des informations, expliquer la situation exacte des personnes. Le préfet, personnellement, n'a pas forcément toujours toutes les informations qui peuvent lui permettre de voir si la personne peut bénéficier ou non d'un titre de séjour. Et puis après, sur certains cas, c'est arrivé à plusieurs reprises, ça peut être aussi d'alerter la presse sur une situation, de faire une manifestation. Tu rappelais qu'il y en avait eu à Florac, bon, voilà, il y en a eu à Mende, il y en a eu dans les Cévennes, il y en a eu à Marvejols, il y en a eu ailleurs, pour défendre des situations et demander à ce qu'une personne, une famille, soit régularisée, obtienne un titre de séjour qui lui permette de rester en France.
Il y a aussi le fait, et ça c'est très important parce que chaque citoyen peut le faire, d'accompagner une personne menacée d'OQTF, obligation de quitter le territoire français, au commissariat, pour éviter que ça se passe mal.
C'est pas vraiment pour éviter que ça se passe mal. Oui, mais il faut savoir que tous les jours, il y a des gens qui sont, par exemple, au commissariat de police à Mende, tous les jours, il y a des gens qui sont assignés à résidence et qui vont signer. Et on essaye d'être présent tous les jours avec eux. Mais on n'empêchera rien, en fait. Hein. Absolument rien. D'ailleurs, maintenant, on ne peut plus rentrer, depuis le Covid, on ne peut plus rentrer avec eux dans le commissariat. On est obligé d'attendre dehors. Mais c'est au moins pour savoir et pour pouvoir agir le plus rapidement possible si le commissariat les garde, quoi.
Patricia.
Moi, je veux juste rectifier, c'est pas parce qu'une personne a une OQTF qu'on l'accompagne signer. C'est parce qu'elle est assignée à résidence. Il y a des personnes qui ont des OQTF qui ne sont pas assignées à résidence. Par contre, l'assignation à résidence, ça veut dire qu'on peut arrêter la personne et qu'on peut l'expulser. Et toutes les dernières expulsions en Lozère se sont faites de cette manière. Voilà.
Georges, Attaque est un mouvement dont les combats sont multiples. Est-ce que tu peux, en deux, trois mots, nous résumer Attaque ? Parce que quand tu vas sur le site, en fait, vous êtes partout. Vous êtes de tous les combats.
Mais oui, ce qui m'a intéressé, moi, justement, à Attaque, c'est qu'on fait la jonction avec l'ensemble des crises. Hein. Actuellement, en France, on a une crise climatique importante, on a une crise sociale énorme, on a une crise démocratique. Et le mouvement Attaque, qui est parti de l'idée qu'il faut prendre le pognon là où il est et qu'il faut taxer les transactions financières. Donc on est parti de là, mais on s'aperçoit qu'il y a des répercussions sur l'ensemble des crises. Et moi, ce qui m'intéresse chez Attaque, c'est justement qu'on est capable de faire le lien entre les différentes crises. Et qu'on est, bon, et les gens qui... bon, ici en Lozère, c'est difficile de fonctionner parce qu'on est bon, dans nos communautés de communes. Là, on est 3 habitants au kilomètre carré. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça représente, mais c'est à peu près la même densité qu'au Sahel, quoi. Donc arriver à mobiliser des gens, c'est un peu difficile. Surtout sur de la réflexion... de la réflexion de fond, quoi. Et tu vois, monter une manif contre les retraites, une manif contre la loi Darmanin, là on arrive, c'est un peu concret. Mais quand il s'agit de réfléchir sur le fond, sur quelles sont les modifications profondes qu'il faudrait faire au système démocratique, au système social, à la lutte contre la perte de biodiversité ou des dérèglements climatiques, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça se fait. On n'est pas tout seul. Hein. C'est plutôt un lieu où la vie associative est très riche. Sur Florac, comme sur les Cévennes, on a quand même énormément. Mais c'est quand même dur, quoi, parce que dans les différentes associations, on se retrouve souvent avec des gens qu'on a déjà vus dans d'autres associations, parce qu'on est très peu nombreux. Et ça, ça crée des difficultés supplémentaires. Quelqu'un qui est à Saint-Julien-des-Points pour faire une réunion à Mende, ça lui fait 3 heures aller-retour, quoi. Donc c'est difficile.
Et puis c'est peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de bienveillance entre nous tous, j'ai l'impression, parfois.
Oui, sûrement. On s'entend bien, quoi. Mais parce que c'est surtout, en plus, c'est des, on se connaît tous, quoi. Pratiquement sur le secteur, les gens qui ont envie de faire quelque chose, on a vite fait de se retrouver, de se trouver, quoi. Et c'est un peu la différence entre nous, citoyens, et les gens de la préfecture, quoi. La préfecture, le préfet, il voit des dossiers avec des noms, des chiffres, des trucs. Bon, ok, mais c'est complètement abstrait. Alors que nous, les gens, on les a avec nous. On les rencontre, on va les voir. Ils viennent quand on leur téléphone, on va les voir. C'est pas un souci. On a un rapport humain avec eux. Alors que les services de la préfecture, ils ont un rapport complètement inhumain avec eux. Ça s'est un petit peu amélioré. Sur les dernières semaines, on a l'impression que l'accueil à la préfecture est un petit peu meilleur. Mais c'est pas obligatoirement gagné, parce qu'il y a plusieurs personnes qui accueillent. Et selon sur qui on tombe, ça peut être très difficile. Mais bon. Voilà.
On peut en parler avec Hardy Lézard, carrément. Le planning a mis en place tout un programme de lutte contre les discriminations pour communiquer sur... c'est pas le planning ? Vas-y, dis-moi.
Non, il n'y a pas un programme de mise en place de lutte contre toutes les discriminations.
Contre des discriminations.
Non, il y a des...
Alors, on recommence, c'est pas grave, on n'est pas en direct. Il n'y a pas de problème. Pour une fois que ça marche, voilà, ma question est mal posée, il n'y a pas de problème. Donc, on y va. Qu'a mis en place le planning familial ? Hop, question ouverte, on est tranquille.
Alors, je vais essayer de vous développer tout ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a des permanences. C'est vrai qu'il y a des entretiens d'écoute, alors que ce soit sur place ou que ce soit des entretiens téléphoniques. C'est vrai qu'il y a des séances d'éducation à la vie affective sexuelle. Voilà, le terme exact. Oui. Voilà. Mais après, il y a d'autres développements, d'autres programmes, comme le programme PRODAS autour des émotions. Ça se fait aussi dans les écoles primaires. Des groupes de parole, des journées de formation à destination, par exemple, de professionnels. Et puis, des actions militantes. Voilà, en gros. Donc, par rapport aux interventions en milieu scolaire, puisque j'en ai déjà parlé donc, tout à l'heure, en disant que depuis cette année, il y avait quand même une recrudescence de propos violents, haineux. Ouais. C'est vrai que c'est récent. Parallèlement, il y a aussi un développement de propos qu'on pourrait dire masculinistes, hein, avec « oui, mais les pauvres hommes, nous aussi, on souffre », voilà, par exemple. Hein. Et des élèves qui vont remettre en question des données, par exemple chiffrées, qui sont fournies par la Haute Autorité de Santé. Voilà, des fois, ça peut être limite du complotisme. Donc, il y a toutes ces constatations. Donc, avec, comme je l'ai dit aussi, des jeunes qui s'engagent quand même pour lutter contre effectivement le racisme, l'homophobie, etc. Ou pour que les gens puissent affirmer leur genre et leur sexualité librement. Hein. Alors, normalement, ces fameuses séances donc d'éducation à la vie affective et sexuelle, il y a quand même une loi depuis 2001, je crois. Oui, bon, à vérifier, qui prévoit que tous les élèves doivent bénéficier tout au long de leur scolarité de 3 séances par an.
Le planning a notamment fait partie d'une des 3 assos qui a porté plainte contre l'État. Hein.
Voilà, c'est ça, qui a en fait assigné l'État en justice. Donc c'est avec SOS Homophobie et SIDAction. Puisque c'est absolument pas respecté. En fait, seuls 15% des personnes âgées de 15 à 24 ans déclarent avoir bénéficié de ces 6 séances d'intervention au cours de leur scolarité. Et 17% disent qu'ils n'ont jamais eu de séance de ce type. Alors, c'est vrai en Lozère comme ailleurs. Hein. Y a des séances qui sont faites, pas dans tous les établissements, pas forcément 3 séances. Y a partout en France des demandes de séances qui ne sont pas satisfaites parce que les associations qui interviennent, il y a le planning, mais il y en a d'autres aussi, hein, n'ont pas les moyens financiers et humains pour le mettre en place. Donc, l'idée quand même de ces associations, c'est avec la campagne donc, qui s'appelle Cas d'école, c'est effectivement que l'État fasse appliquer cette loi et que les programmes prévus soient mis en place.
Est-ce qu'on peut l'imaginer pour toutes les formes de discrimination ? Parce qu'il n'y a pas que la sexualité là pour le coup. Là, on parle aussi du racisme, de l'antisémitisme et de dire mais l'acceptation de l'autre, en fait, peu importe sa couleur, sa sexualité, sa religion, enfin, c'est le fondement même de l'école. Et puisque là, on parle d'une semaine qui est mise en place pour l'éducation nationale, pourquoi ça n'existe pas ? Et je ne comprends pas qu'en cours d'histoire, on n'ait pas ça, qu'en cours de français, on ne mette pas en place les écriture inclusive, que sais-je, peu importe qu'on soit pour ou contre, en tout cas qu'on l'apprenne. Après, si on l'utilise, on ne l'utilise pas. En fait, c'est ça, c'est toutes les formes de discrimination qui devraient être mises à mal à l'école.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, quand on parle de ces interventions sur la vie affective et sexuelle, il y a tout ce qui concerne les LGBT-phobies. Hein, dedans, donc, voilà, c'est important. Et puis, c'est clair que quels que soient les racismes, si on peut dire ça comme ça, les comportements qui vont générer des discriminations, c'est vrai que le fait d'avoir des espaces de parole, des espaces où les jeunes peuvent s'exprimer là-dessus, c'est quand même un moyen de prévenir la violence et la haine. Quand on ne discute pas quelque chose, quand on reste sur ce qu'on pense, sur ce qu'on a dans la tête, on va pas évoluer et la haine va continuer, la violence va continuer à monter. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait au niveau scolaire des lieux, des moments où les élèves peuvent s'exprimer avec un cadre justement, s'écouter réellement, se répondre pour faire évoluer ces pratiques. Donc c'est aussi un des buts de la campagne cas d'école.
Christelle ?
Et peut-être aussi pour répondre à cette question, mais pourquoi il se passe, pourquoi il n'y a pas de, voilà, par exemple, une présentation de l'écriture inclusive et tout ça à l'école, c'est une fois de plus, qui est-ce qui prône les programmes ? Qui est-ce qui font les programmes ? C'est le ministère de l'Éducation. Le ministre de l'Éducation est élu et nommé par qui ? Par le président. Donc une fois de plus, c'est parce que c'est un manque de volonté politique étatique, parce que la volonté, encore une fois, de ce président-là qui est mis en place, c'est diviser pour mieux régner. Donc, de toute façon, c'est absolument pas dans sa logique de lutter contre les discriminations. Non, lui, au contraire, il veut le contraire. Donc, forcément qu'il n'y a pas ça dans les programmes. C'est logique. Alors, ce qu'on peut proposer, c'est... Alors, vu que, effectivement, malheureusement, les programmes de l'éducation nationale sont hyper chargés, donc on n'a même pas le temps de faire ce qu'ils nous demandent de faire. Mais ce qu'on pourrait faire... Eh ben, c'est de la désobéissance civile, et que si ça n'existe pas, eh ben, on le met en place dans les classes. Et c'est aussi aux enseignants de prendre l'initiative de le faire, parce que c'est important. Voilà. Et...
C'est un peu ce qui se passe, hein. Mais bon, comme toute désobéissance civile, c'est quand même pas la majorité qui la pratique. Mais il faut aussi savoir qu'en plus, la liberté pédagogique est complètement mise, renversée, quoi. Hein. Donc maintenant, les enseignants, il y a un programme et il ne faut surtout pas déroger. Il n'y a que les gens comme moi en fin de carrière qui peuvent se permettre. Voilà, bon, ouais. Bref.
Georges, tu voulais ajouter un mot ?
Non,
pardon,
juste un détail, mais je pense qu'il y a aussi un manque de formation. À partir du moment où on n'est pas formé à enseigner, à faire de l'animation sur ce sujet-là, c'est très compliqué pour un prof. Il faut voir comment on est formé. Enfin, moi, j'ai été enseignant avant, il y a très longtemps. Hein. Mais on a des formations très disciplinaires et les sujets un peu généraux, on n'a pas de formation spécifique dessus. Donc c'est pas évident de s'improviser animateur d'un atelier sur l'éducation sexuelle, l'éducation affective, le contre le racisme, etc. C'est difficile. Donc il faut pas, on peut pas jeter la pierre à des gens qui n'ont pas été formés pour ça, quoi.
Je rajouterais juste un petit mot sur le diviser pour mieux régner, en fait, et je mettrais mon avis pour une fois sur Radio Vartas.
Il y a des trucs qui ne réussissent pas, mais là, il réussit. Hein. Là, il réussit parfaitement, Macron.
Ça, je suis d'accord, mais pour le coup, c'est De Gaulle avait déjà bien commencé, Pompidou a vraiment continué, Mitterrand, lui, il a pris le truc à fond, Chirac a été à donf, Sarkozy, lui, il a pris les leçons. Hollande, il l'a fait aussi. Et Macron ne continue que cet héritage de notre chère 5e République qui est absolument incroyable. Voilà. La Constitution qui nous rappelle un truc qui s'appelle le 49-3 qu'on a pris tous dans la gueule la semaine dernière. Voilà. Donc pour moi, ça fait 50 ans ou 60 ans de 5e République assez compliqué où le diviser pour mieux régner existe et de toute façon, tant que notre politique sera comme ça. Voilà. Est-ce que c'est le rôle des assos et des collectifs de se substituer à l'État ? En quelques mots, pourquoi ce qu'on nous vend comme étant une démocratie et une république, pourquoi le pouvoir ne prend pas ses responsabilités ?
On s'en fout de cette question. Moi, j'ai pas de réponse là-dessus. Mais, on est obligé. Quand l'État ne fait pas ce qu'il faut, on est bien obligé de venir faire à sa place. Mais c'est un vieux débat. On l'a souvent dans nos associations. Moi, je me rappelle quand on a créé Quoi de Neuf, là, l'idée, c'était que l'association disparaisse rapidement. Et au contraire, elle a multiplié ses actions par 10, quoi. Non, on est obligé parce qu'il ne faut pas. Moi, chaque fois que je fais un chèque à une des ONG que j'aide sur la santé, en particulier sur Médecins sans frontières, mais ça me fait mal parce que c'est à l'État de faire ça. C'est l'État qui devrait la recherche sur le cancer, la recherche, tout ça, on le fait financer par les associations. C'est une forme d'impôt déguisé, quoi. Mais bon, comment faire autrement? Si on le fait pas, ça se fera pas. Donc, mais il faut continuer à côté de ça. Il faut se battre pour. Essayer de changer, il faut changer cette politique-là. Je crois qu'on est en plein dans un moment où on s'aperçoit, il y a de plus en plus de gens qui s'aperçoivent qu'on ne peut pas continuer avec le néolibéralisme. On ne peut pas, c'est pas possible. Sur tous les sujets où on vient buter là-dessus. Il nous manque de l'argent pour les hôpitaux, il nous manque de l'argent pour l'éducation nationale, alors que les actionnaires continuent à s'engranger des milliards. Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Le problème numéro un, c'est l'inégalité. Bon, je ne vais pas m'énerver.
Patricia, non, mais tu as raison de le faire. On est là pour ça. Hein. Patricia.
Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas toujours à se substituer à ce que devrait faire l'État. Parce que ce soit le réseau Éducation sans frontières ou Planning, par exemple, ce sont des associations militantes. Ça veut dire qu'on milite quand même contre des décisions, des lois faites par l'État. Donc là, on se substitue pas à eux.
Hein. On lutte contre eux.
On lutte contre
eux. En tout cas...
Voilà, on lutte contre.
La petite dernière question est assez... J'ai déjà la réponse. Est-ce qu'on peut imaginer un monde sans discrimination ? Non, je kiffe ce silence radio, voilà... Voilà. Un monde sans humain, nous dit Arthur. Est-ce que c'est possible ? Mais
avant, il faudrait. C'est pareil, c'est complètement utopique. En ce moment, il faudrait imaginer un monde sans frontières, déjà, pour commencer. Après, on parlerait des discriminations qui pourraient ressurgir ou non. Mais bon. C'est complètement débile, un peu ce que je dis.
Non, moi je pense que c'est pas débile. C'est vrai que là, il y a quand même effectivement aussi une vraie discrimination. On choisit pas où on est, mais on va pas choisir le passeport qu'on a qui nous permet ou non de voyager d'un pays à l'autre. Hein. Parce qu'après, on parle des passeurs, des associations qui vont faire appel d'air en aidant des exilés. Mais il faut quand même savoir que la France et la plupart des pays riches, voilà, nous, on peut aller dans plus de 180 pays sans visa, au moins pour 3 mois, ou juste en faisant une démarche sur Internet. Un Afghan, eh ben, lui, il peut aller dans 25, 26 pays. Donc oui, il y a une vraie discrimination là, et on choisit effectivement pas où on est.
Christelle, tu voulais...
C'est pas très très positif ce que je vais dire, mais je dirais presque la discrimination, malheureusement, ça fait partie un peu de la nature humaine, quoi, parce que il y aura toujours, à partir du moment où il y a cette idée de pouvoir, de supériorité, effectivement, malheureusement, il va falloir. On passera notre temps à lutter parce que, à mon avis, un monde sans discrimination, c'est comme tu dis, Arthur, c'est un monde sans humain, quoi. Malheureusement, il faut aussi accepter la nature
Est-ce que c'est toi, Arthur, qui disait que les bactéries, quand tu les mets dans un milieu clos, en fait, elles vont jusqu'à l'essoufflement ? C'est pas toi. Alors, je ne sais plus qui m'a dit ça, mais c'était très intéressant, du coup. Non, mais en fait, tu mets une bactérie dans un local, elle va se développer, en fait. Tu vois, et elle va se développer jusqu'à l'étouffement, en fait, et jusqu'à mourir d'elle-même, en fait. Voilà, donc, en fait, un monde sans humains, bah, on est un peu sur la bonne, la bonne ligne. Merci à tous les quatre d'être venus. La lutte contre toutes les formes de discrimination ne doit jamais s'arrêter. Et comme disait JBD de l'émission Polynix, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Faites gaffe, hein, faites gaffe aux idées nauséabondes. Allez vers l'autre, tendez-lui la main, dénoncez tout ce que vous pouvez voir qui mettrait les gens comme vous et moi sur le banc de la société, vivre ensemble, peu importe notre origine, notre couleur de peau, notre religion, grandissons ensemble et pas l'un contre l'autre. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions, je ne sais pas si on a fait avancer le monde. Mais en tout cas, le truc, c'est que dans cette émission, en tout cas, vous avez pu entendre l'association La Redingote attaque RESF le planning. N'hésitez pas à vous engager dans ce genre d'association. Vraiment, et je mets tous vos liens là où les gens peuvent venir vous voir et aider l'autre. C'est tout ce qu'on a. Au nom de Radio Bartas, je remercie chaleureusement L'Encrier pour son accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie et Arthur et Lida, pour la lecture de Matin Brun de Franck Pavlov. Je dois un exemplaire à L'Encrier, promis, je le ramène. Arthur était à la technique, Véro à la coordination de cette émission. Vive l'autre, vive la différence. À très vite sur nos ondes. On se quitte avec Ouvrez les frontières. Ça, c'est un artiste qui s'appelle Xuman, que j'adore. Passez un très bon moment sur Bartas. Vive la différence, vive l'autre. À très bientôt, ciao.
Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a de bonnes, il y a de mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous.
Eh ben oui, c'est pour ça que c'est génial le direct. On est en direct ? Trop bien, évidemment, je l'avais noté, évidemment, évidemment. Et non, non, quand on oublie des choses et qu'on est hors plateau, on y va. Et Patricia, tu voulais vraiment nous parler de la double peine ?
Oui, oui, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est vrai que les circulaires du ministre Darmanin remettent cette double peine au goût du jour, puisque toutes les personnes donc, qui ont problème avec la justice, quel qu'il soit, qui ont eu un problème avec la justice il y a longtemps, pas longtemps, quelle que soit leur situation, doivent être expulsés. C'est ce qu'on appelle les délinquants, c'est les fameux méchants, avec qui il faut être méchant. Alors c'est vrai que, bah oui, la double peine, c'est quand même grave, parce que il y a une vraie discrimination à partir de la nationalité. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui commet un délit, un crime, il va payer pour la faute commise. Mais normalement, quelqu'un qui va en prison, qui fait des travaux d'intérêt généraux, c'est dans le but de pouvoir après recommencer une vie.
La réinsertion, ce qu'on appelle.
Alors, j'aime pas beaucoup le mot réinsertion, mais comme j'en trouve pas d'autre. Mais oui, une possibilité de retrouver une place, en fait, dans la société. Voilà. C'est plus juste. Et là, c'est pas le cas, puisqu'un étranger, ben, par exemple, à sa sortie de prison, il va être directement expulsé. Donc, ça veut dire qu'on va expulser des gens qui vivent depuis parfois des années, depuis leur adolescence, en France, dont la famille est en France, vers un pays où ils ont peu vécu, qu'ils ne connaissent pas, voire vers un pays où ils n'ont quasiment pas vécu parce qu'ils sont arrivés tout petits en France. Leur famille est ici. Ça veut dire qu'on va casser des couples. Ça veut dire qu'on va casser des familles où il y a, par exemple, le père ou la mère qui va être expulsé et pas l'autre. Donc là, pour moi, c'est une vraie discrimination d'État, du gouvernement, envers ces personnes.
Sachant que ça veut dire aussi que j'ai l'impression, dans ce truc, que l'État ne croit pas du tout à justement aux peines qui sont infligées aux personnes qui ont commis je ne sais quel crime, en fait, peu importe. C'est-à-dire que tu fais 10 ans de prison pour un bon Français bien blanc, tu fais 10 ans de prison pour un Algérien, maghrébin, je ne sais quoi. En fait, c'est la même peine pour le même crime, mais il y a, y a autre chose, alors que normalement, à même crime, même peine. En fait, oui. Ça veut dire que le milieu de la justice aussi ne croit pas en lui.
Alors, c'est vrai que là, il y a le principe...
Quand je parlais de réinsertion, c'est ça aussi, hein, pardon.
Oui, oui. Le principe d'égalité devant la loi, il n'est pas effectivement pas respecté. Bon, il faut déjà savoir que pour le même délit, par exemple, commis, très souvent, il y a eu des études là-dessus, les étrangers vont prendre plus lourd que les Français. Donc oui, non, il n'y a pas une égalité devant la loi non plus. Et après, c'est un argument sécuritaire. Hein, même s'ils prennent la même peine, effectivement, par hasard, si l'étranger ne prend pas plus, l'étranger risque d'être expulsé. Et ça, c'est vraiment un argument sur la politique sécuritaire, sur les étrangers sont dangereux. Bon. On l'entend beaucoup maintenant, mais on l'a entendu par le passé pour d'autres types d'étrangers. C'est pas nouveau non plus.
On consacrera une émission sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Je pense que là, on va refaire une heure avec plaisir.
Pour dire juste qu'il y a un groupe local, le groupe RESF, qui s'est créé à Florac, qui se réunit régulièrement maintenant depuis un an, tous les mois, ici à Lancrier, et qui essaie d'agir au niveau local auprès des personnes, de l'accompagnement, mais également essayer d'organiser des choses. L'année dernière, on avait organisé une super fête avec un repas, voilà, avec de la musique et tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose de ce genre qui se reprépare aussi. Donc n'hésitez pas à regarder le programme de Lancrier, et, parce que ces réunions sont ouvertes à tout le monde, bien entendu, ces rencontres. Et donc voilà, et c'est important pour Florac.
Ça, c'était vraiment important de le dire. Et ben voilà, je pense que là, maintenant qu'on a fait le tour, on est tout. On vous embrasse du fond du cœur à toutes et tous. Soyons différents. Georges, tu m'as fait peur. Ouais, ben, on est sur Barthas, hein, tout va bien. Et on a la fin de ce direct. Restez bien sur Barthas, on n'y est pas trop mal, vive la différence. Tiens, je l'ai déjà dit, c'est marrant, comme un truc. Allez, on vous embrasse et à très très vite. On se quitte avec, normalement, sauf si on reprend le direct dans 5 minutes, ça s'appelle « Ouvrez les frontières ». The Man, toujours.
Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Y'a de bonnes, y'a de mauvaises, mais y'a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Y'a de bonnes, y'a de mauvaises, mais y'a des nouvelles pour vous. Les morts ne se comptent plus par centaines, mais par milliers. Sur la route de l'immigration clandestine, on est familier avec ces images de corps sans vie vomis par l'océan. Autant de destin et d'espoir brisés en plein élan. L'arrivée en terre promise, c'est comme gagner au loto, mais y'a de l'eau dans le radeau qui mène vers l'Eldorado. À ce niveau, on n'est plus victime, on parle de statistiques. Chaque pirogue est un Titanic. C'est pas 10 000, ni 15 000, mais plus de 22 000 qui seraient morts dans ces pirogues depuis l'an 2000. Chaque année, en moyenne, il y a 1500 naufragés. Donc autant de familles ravagées. Les guerres et les crises sont les principaux alibis de tous ces migrants qui passent par le Maroc ou la Libye à la recherche d'une vie meilleure de l'autre côté de la rive. Mais la Méditerranée devient le tombeau de leurs rêves. Pour n'avoir pas su régler ses problèmes en amont, ma gouvernance est pauvreté. L'Afrique est coupable pour refus de trouver de plus durables solutions. Richesse mal distribuée. L'Europe est responsable. On a du mal à couper le cordon ombilical avec la mer nourricière. L'empire colonial, l'Afrique a faim, a soif et en quête d'idéal. Sous respiration artificielle, son économie va mal. Elle se laisse séduire par la pacotille venue d'Asie. Vu que l'Europe favorise l'immigration choisie. Assise sur un magot, l'Afrique tend quand même la main. Yeah, son avenir reste incertain. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. L'Europe fait semblant de ne pas entendre nos prières. Comme dit pas toujours, on sera riche ensemble. Ou alors on va se noyer tous ensemble. C'était Krouman pour les haut-parleurs.
À bon entendeur.